Salut tout le monde, bienvenue sur Canal B 94 FM et vous écoutez l'émission musique.fm qui vous passe plein de soundtracks de jeux vidéo. Je suis avec Alexis comme à chaque fois. Salut Alexis.
Salut comme à chaque fois.
Et ben là on est en train d'écouter un très beau morceau du jeu Super Mario Sunshine sorti sur GameCube en 2002. C'est le morceau Sky and Sea composé par Shinobu Tanaka et évidemment Koji Kondo, qu'on cite une émission sur deux, je pense.
Oui, c'est vrai.
Et c'est un très beau morceau qui est, pour un jeu qui est très, très mitigé pour les gens. Je sais pas si tu as joué, toi.
Et non, moi j'ai eu plutôt des PC gaming après la PS1 et tout ce qui va être GameCube et tout, j'ai jamais trop testé.
Ouais.
Donc Super Mario, moi ça s'arrête vraiment à limite même le Super NES.
Oui.
Et après j'ai repris.
Bah là t'es en train de faire Mario Galaxy.
Je rattrape le temps perdu et je viens de finir le Galaxy 1, ouais.
Et bah bon, j'ai hâte que tu te frottes à Super Mario Sunshine parce que moi j'y avais joué sur GameCube à l'époque. Et en gros, il y a plein de personnes, moi compris, qui ont un très bon souvenir de ce jeu parce que l'univers est quand même très rafraîchissant. On est sur l'île Delfino, on n'est pas au royaume champignon. Donc c'est les vacances, c'est la plage, le soleil, avec un gameplay où l'eau est omniprésente. C'était ouf d'ailleurs, enfin visuellement, l'eau, elle était magnifique dans ce jeu, c'était dingue. Et c'est, mais c'est un, dans les faits, en fait, c'est un épisode qui est très très frustrant. Enfin, c'est un jeu compliqué où tu dois recommencer les niveaux en boucle. Enfin bon, bref, il est assez pénible en fait. Mais vu que pour pas mal de gens, c'était plus ou moins leur premier jeu vidéo. Enfin, les personnes génération années 2000, il y a un gros capital nostalgie. Donc, ce qui fait que pas mal de gens en gardent un bon souvenir. Et cette musique, elle fait pas mal. Elle ne fait pas exception parce que elle est super mimi, super jolie, avec un côté aérien, mais c'est dans un niveau absolument horrible qui a traumatisé tout le monde, où t'es dans le ciel et t'es sur une structure qui te fait tomber sans arrêt et tu dois recommencer le niveau en boucle, enfin qui dure, en plus ça dure 15 minutes, quand t'es juste à la fin, si tu meurs, bah tu dois recommencer, enfin bref.
Aïe, 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 aïe.
C'est un sacré délire, mais à tester quand même, bon et mauvais souvenir à la fois.
On retrouve le son de Steel Drums d'ailleurs.
Bien sûr.
Propre à vraiment pas mal de BO de Mario, enfin à Koji Kondo surtout.
Bah ouais, et puis en plus ça prend tellement son sens dans cet univers de vacances au bord de la plage.
C'est marrant parce que le Zelda GameCube, le Wind Waker, c'est aussi pas mal basé sur l'eau.
Ah ouais, exact.
Enfin, sur l'exploration.
Exact.
Enfin je sais pas, ouais. Bref.
C'était l'époque liquide. En
ouais,
fait.
C'est ça.
Dans les années 2000, tout était liquide. Et ok, et ben moi j'ai préparé mon petit mix. Si ça te va, on peut y aller.
Bah ça me va. We'll be right back.
Vous êtes sur Canal B 94 FM et vous écoutez l'émission musique.fm. Je vous ai passé quelques morceaux qui étaient quand même assez rock, on va pas se mentir.
Ça décoiffe.
Bah ouais, je peux pas m'empêcher à chaque fois, hein. Je passe des morceaux un peu rock, peut-être parce que je viens du rock, on ne se refait pas. En premier, il y a eu un morceau du jeu Final Fantasy Mystic Quest sorti sur Super NES en 93, le Dark King's Theme, composé par Ryuji Sasai. Donc ça, c'est le premier Final Fantasy qui a été sorti en Europe, et ils avaient fait, en fait c'était une sorte de version simplifiée de Final Fantasy. Je pense qu'ils n'avaient pas trop confiance aux gens en dehors du Japon pour comprendre toutes les subtilités des RPG japonais. Et c'est l'une des seules BO de Final Fantasy qui n'a pas été composée par Nobuo Uematsu.
Qu'on passe aussi souvent dans le...
Ben voilà, qu'on a déjà passé plusieurs fois et qui ouais. est vraiment le compositeur attitré des Final Fantasy.
C'est clair.
Et donc Ryuji Sasai, il a joué dans plusieurs groupes de rock et c'est un gros fan de heavy metal et de metal progressif. Donc il y a vraiment un feeling très guitare dans ses accords avec des espèces de power chords et avec ce côté un peu épique et orchestral propre à Final Fantasy, évidemment. Ensuite, il y a eu un morceau du jeu Cadillacs and Dinosaurs sorti sur arcade en 93. Le poursuite stage 1-3-7-1 de Isao Abe et Shun Nishigaki. Donc c'est un jeu d'arcade auquel je n'ai pas joué, mais toi tu y as joué.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Sur émulateur, car à l'époque j'avais 9 ans, j'ai déjà allé dans quelques salles d'arcade à l'époque quand ça existait, mais
ouais.
En tout cas ouais, super cool à faire, franchement hyper coloré, très très 90s, beaucoup d'action,
c'est ça
se finit en une heure je pense, un truc comme ça sur l'émulateur. C'est vraiment à faire même avec quelqu'un d'autre.
Bah ouais, puis enfin bon, déjà Cadillacs and Dinosaurs, c'est bon, le titre c'est
oui,
un peu drôle.
Oui, alors on incarne une espèce de.
Mais j'ai vu que c'était des militants écologistes qui sont venus protéger les dinosaures face à des contrebandiers.
Ouais, bah ça doit être ça.
C'est ça, et en fait les contrebandiers ressemblent à fond à des gars tirés de Mad Max, mais
oui,
mais classique. Tu casses la gueule aux dinosaures aussi. Donc,
mais oui, je me souvenais plutôt qu'on. Se battre contre des dinosaures.
Ouais, il
mais...
y a un peu de tout. Et il y a des phases en voiture avec ta Cadillac. Et
ouais,
tu renverses les ennemis sur de la musique rock.
Tout à fait. Non, mais c'est un très bon divertissement, très, très, très d'époque. Quoi.
Oui, oui, mais j'imagine.
N'hésitez pas.
Et ensuite, on a eu un morceau du jeu Road Rash sorti sur Mega Drive en 91. Le morceau Pacific Coast composé par Ron Hubbard, donc pas le Ron Hubbard de la scientologie et tout ça. Là.
Ron, quel homonyme incroyable.
Ouais, c'est fou. Et donc, c'est pareil, c'est un jeu très subtil, hein, avec des courses de moto illégales, donc au milieu de la circulation, et où tu dois te frayer ton chemin et faire attention à la police. Mais la particularité qui était trop cool à l'époque, c'était que tu pouvais tabasser tes adversaires en leur mettant des coups de pied, des coups de batte pendant, pendant la course.
Ouais, je me rappelle, moi j'avais joué à ce jeu, on faisait que ça d'ailleurs. Enfin, bah, c'est débile. Hein, mais...
C'était un peu le truc qui faisait que les gens qui faisaient ce jeu. Quoi. Oui. Mais,
ça rend violent les jeux vidéo.
C'est exact. Moi j'avais joué à la version PS1, pas la version, la version Mega Drive. Et je me souviens que visuellement, c'était quand même... T'avais des espèces de loubars en caricature, en 3D, moche. Enfin, c'était très mauvais goût, quoi.
Ah,
et,
ouais.
Et pas mal de cutscenes en FMV. Quand tu te faisais arrêter, t'avais les flics qui étaient là et qui te tapaient et tout ça. Et ce morceau, il est un peu drôle parce qu'il est très rock aussi et il montre bien le caractère de la fameuse puce FM là, propre à la Mega Drive, dont on a déjà parlé pas mal de fois et on en parlera sûrement.
La sainte puce Yama.
Oui, c'est ça. Et la compo met vachement en avant une espèce de son de basse qui est martelé. Et, et en fait, c'est tellement. Je trouve que c'est tellement singulier qu'on a presque. Enfin, c'est presque de la musique XP au bout d'un moment. Enfin, c'est tellement. C'est assez demandant pour l'oreille, quoi, on va dire. et en dernier, je vous ai passé un morceau du jeu System Shock sorti sur PC en 94. Le L2 Research de Greg Lopicolo et Tamris. Et donc, pour présenter vite fait, System Shock, c'était un pionnier dans ce style de jeu qu'on appelle les Immersive Sims. Donc, il y a eu d'autres jeux dans cette catégorie, genre les Deus Ex, Bioshock, Dishonored. Et c'était très novateur. Donc, c'était souvent des FPS en vue à la première personne, avec des éléments d'infiltration et de jeu de rôle. Et le concept des jeux, c'était... Enfin, contrairement aux jeux de shooter un peu basiques qu'il y avait à l'époque, c'est que quand tu étais face à une situation, il y avait toujours plusieurs façons d'y faire face. Donc tu pouvais utiliser l'infiltration, tu pouvais hacker des machines, tu pouvais, enfin bref, tu pouvais, il y avait des dialogues aussi. Et ce que je trouve intéressant dans ce style de jeu qui est un peu niche, c'est pas que, enfin, on en parle plus trop aujourd'hui, mais c'est pas parce que c'est trop impopulaire, c'est parce qu'au contraire, je trouve que ça s'est diffusé à fond dans les autres jeux. Et que c'est un peu rare aujourd'hui d'avoir des jeux où il n'y a pas un petit peu de points de compétence, un petit peu de jeu de rôle, un peu d'infiltration,
oui,
un peu
vrai.
De, enfin, voilà. Et donc, ou alors un peu de craft, enfin, bref. Et je trouve ça un peu marrant et ça me rappelle un peu la musique aussi, où enfin, au bout d'un moment, les genres s'hybrident, les catégories, sont un petit peu enfin, faites pour être transgressées, quoi, on va dire. Et ben, la BO, là, bon, le morceau, normalement, c'est des trucs plutôt ambiantes, mais là, c'était un morceau un peu rock avec une espèce de double pédale à la fin et, des gros accords de guitare. Et c'était super fun. Voilà.
Oui, j'ai bien aimé.
Bah, cool. Et pour la suite, on va changer complètement d'ambiance parce qu'on va aller dans les fonds marins pour les derniers morceaux que je vais vous passer, qui vient du jeu Subnautica, un super jeu indépendant. Et vraiment, la musique est magnifique. Vous êtes sur Canal B 94 FM et vous écoutez l'émission musique.fm qui vous passe du son de jeu vidéo. On est en train de s'écouter de la musique du jeu Subnautica, donc un jeu de survie indépendant en milieu aquatique qui est sorti sur toutes les plateformes en 2018 mais qui était en accès anticipé depuis 2014. Donc là, il y a eu deux morceaux qui ont été mélangés par mes soins, God Rays et Into the Unknown. Composé par Simon Chilinski. Donc ce jeu, c'est vraiment l'enfer absolu des thalassophobes. Parce qu'on est vraiment perdu sur une planète aquatique dans l'immensité des fonds marins. Donc on a vraiment des centaines de mètres sous nos pieds. On sait pas, il y a des créatures. Enfin, c'est un peu l'enfer. Mais c'est en même temps magnifique. Parce qu'il y a un côté très relaxant et inquiétant à la fois. Et donc tu dois absolument explorer les fonds marins pour survivre. Et la musique est vraiment incroyable. Elle se met en route au fur et à mesure de ta exploration. Donc il y a beaucoup d'éléments de moments de silence dans ce jeu, mais quand tu vas croiser certains points d'intérêt, une petite grotte, un truc comme ça, hop, t'as la BO qui se met en route et sur ces sons un peu électro ambiantes mais assez rythmées, et je trouve que ça te met dans un truc assez cinématographique, en fait. Parce que tu viens de passer, par exemple, une heure à ramasser des algues. Et d'un coup, hop, un petit kick, et tu vas explorer une grotte. Donc c'est vachement agréable. Alors qu'ils auraient pu se contenter d'une BO très atmosphérique, minimaliste. Mais non, enfin là, il y a vraiment des vrais morceaux. Et ouais, ce qui est assez cool, c'est que toute la BO, elle est sur la même tonalité. Et majoritairement, c'est un peu les mêmes BPM. Donc c'est pour ça que c'est super agréable à mixer et que tout se fond. Enfin, tout est très organique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce jeu, le studio qui est à l'origine de Subnautica, qui s'appelle Unknown Worlds, à la base, ils avaient fait un prototype qui s'appelle Descend, donc un jeu aquatique aussi. Et le premier élément qu'ils avaient pour ce jeu, c'était la BO et le menu du jeu. Il n'y avait même pas d'idée de gameplay, de rien du tout, il y avait juste une musique. Et donc, ça prouve que c'était à la base une expérience plutôt esthétique de leur côté, et que tout le reste est basé, tout était basé sur l'artistique, et tout le reste, le gameplay, le scénario, tout ça, a découlé de ça, et donc c'est un peu prendre le truc un peu à l'envers, je trouve, mais c'est super intéressant. Et donc Subnautica, c'est vraiment à tester, même juste quelques heures pour s'immerger dans cet univers, franchement c'est trop agréable, et voilà, qui fait bien votre plongée.
En termes de jeu aquatique, est-ce que c'est moins traumatisant que Echo le dauphin?
Ouais, non, on n'est pas sur le même genre de traumatisme. Ouais. Ça peut être effrayant, mais peut-être moins frustrant, quoi.
Et dans le genre jeu aquatique, plutôt par contre détente, il y a Dave the Diver, quand même, un classique de l'indé aujourd'hui.
Mais je l'ai pas encore fait.
Tu l'as pas fait, ouais.
Non.
Bah, c'est bon, ça a rien à voir, mais c'est juste pour placer un jeu aquatique, quoi. Mais à pas hésiter, parce que c'est trop bien. Il y a un mélange de jeux de gestion d'un restaurant à sushi et tu dois pêcher des poissons.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs phases de gameplay.
Il y a plusieurs phases de gameplay. C'est entre Stardew Valley, un jeu de chasse aquatique et un jeu d'aventure en même temps, avec des combats aussi, des trucs à récupérer.
Bon, voilà. Oui.
Et la BO est cool aussi.
Mais ce qui est marrant, oui, avec Subnautica, c'est que tu as ce truc où t'es vraiment très très vulnérable au début, t'es sur ta petite capsule, tu es dans un univers que tu ne connais pas, et comme tous les jeux de survie, au bout d'un moment, t'as un vrai empire, t'as tellement crafté de trucs que tu te retrouves avec une base gigantesque, et t'as massacré la moitié des fonds marins, donc c'est toujours un peu... Mais bon.
Entre les écolos qui tuent des dinosaures et...
Ouais. Émission sous le signe de l'écologie.
Oui. Merci pour tout ça.
Et ça fait plaisir.
C'était bien expliqué.
Écoute... est-ce que peux balancer ton mix?
Je le balance. Je vais présenter rapidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Ouais, ça fait beaucoup d'un coup. Et 6 morceaux d'affilée. Évidemment, on en parle après, comme d'habitude.
We'll be right back.
On est sur Canal B 94 FM, l'émission musique.fm qui vous parle de jeux vidéo et bien sûr de la musique de ces jeux vidéo. Et en parlant de musique, donc on va faire un petit point sur ce mix de 6 morceaux qu'on vient de diffuser à l'antenne. Alors, on a commencé par le morceau Terran 3 de Derek Duke, Jason Hayes et Glenn Stafford, donc tiré du jeu StarCraft sorti sur PC en 1998. Alors, s'il y en a qui étaient là à l'époque, en tout cas en âge de jouer aux jeux vidéo, StarCraft c'était un gros gros banger de l'époque sorti par Blizzard, donc qui avait quand même fait qui avait révolutionné déjà ce genre de jeu de stratégie en temps réel, donc les STR avec Warcraft et Warcraft 2, donc énorme succès du PC. Et donc StarCraft qui prend donc dans un univers de spatial, disons plutôt, avec plusieurs, on pouvait incarner plusieurs, c'était très nouveau à l'époque, on avait 3 races possibles à jouer, donc on avait les Terrans, donc les humains, les Zergs, qui étaient des espèces d'aliens xénomorphes baveux, et les Protoss, donc des espèces d'aliens un peu plus évolués, on va dire.
Plus les Predators, enfin il y avait un côté très influencé par les aliens. Pensé à ça. Alien, Predator.
Le Marines. Alien, ouais, carrément, Zerg, mais Predator, j'avais jamais pensé à ça, ouais, pour le côté Protoss. Mm-hmm. Donc, super jeu, et très scénarisé, avec des missions d'infiltration aussi, des missions de sauvetage et tout. Ils ont vraiment poussé le truc assez loin, avec tout l'héritage des Command & Conquer aussi et tout. Et donc, cette musique qui, moi, m'est restée en tête depuis 98, je pense, avec ce mélange de guitare chorussée, de guitare un peu rock et tout, mais quand même avec une atmosphère un peu particulière, des sons très mat. Et le morceau est plus long, je l'ai coupé un peu parce que bon, on est à l'antenne et qu'on doit enchaîner aussi un peu, mais le morceau évolue vachement bien. Il y a un petit côté bluesy un peu, mais toujours un peu étrange en fait, et qui vaut vraiment le coup. Là, toute la BO est comme ça, et voilà, c'est un jeu à faire si on veut découvrir un peu l'histoire du STR. Mais il y a eu StarCraft 2 après qui a poussé les curseurs un peu plus loin aussi. Et pas de StarCraft 3 au programme pour l'instant en tout cas.
Non, mais après StarCraft 2, en plus ils avaient sorti ça, c'était différents épisodes. Enfin,
oui, y a eu des...
les fans avaient été un peu vénères où t'étais obligé d'acheter 3 jeux pour avoir le jeu complet.
Ah oui, il y a eu peut-être Terran, voilà, Zerg, etc. Ouais. Bah, Blizzard, de toute façon, ouais, je crois que...
C'est bien la thune. Hein.
Voilà. Et on a enchaîné directement après avec le morceau New Hunting Grounds de Tommy Gustafsson, tiré du jeu Hunt Down, sorti sur toutes les plateformes en 2020. Et donc Tommy Gustafsson, c'est aussi le développeur du jeu. Ouais, il a fait la musique aussi. Tranquille. Mmh. Et excellent, c'est un de mes premiers jeux que j'ai chopé sur Switch, sur ma Switch que j'avais chopé en 2020. Et c'est un des premiers jeux que j'ai téléchargé. Et c'est donc un jeu indé. C'est un shoot'em up en 2D, platformer en pixels. Comme il y en a beaucoup qui sont sortis depuis quelques années, mais celui-ci vraiment tire son épingle du jeu. C'est un univers hyper cyberpunk, très 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 80, et avec une ambiance, ils ont mis tout dedans quoi. Le Blade Runner style, le côté ninja cybernétique. Voilà, on peut incarner 3 personnages, donc un peu très stéréotypé, le chasseur de primes, une chasseuse de primes aussi, et une espèce de cyborg. Et franchement, il est trop, trop, trop bien ce jeu. Les musiques sont vachement cool aussi, qui traînent dans cette ambiance synthwave, néon, avec des solos de guitare aussi, un peu heavy.
Un peu dark.
Ouais, un peu dark, voilà. Et il y a vraiment toute l'ambiance aussi du film The Warriors aussi, notamment, parce que chaque niveau, oui, en fait, dans chaque niveau, tu rentres dans le territoire d'un gang. Et donc, t'as vraiment le gang du métro, ils ont tous des battes de baseball, comme dans The Warriors. T'as le niveau des ninjas, etc., etc. Donc, du niveau des punks, évidemment, quoi. Donc, vraiment, tout le lore des années 80, avec lequel on a grandi, ou en tout cas, qui continue d'infuser aujourd'hui les productions, est là, quoi. Donc, très, très fun. Et il y a le 2 qui sort là, bientôt. Je viens d'apprendre ça, donc je suis hyper content de m'y coller. Et... pas loin dans l'univers, on a tout de suite enchaîné avec le morceau V Limo, New Donk City de Bill Cayley, tiré du jeu Katana Zero, qui est sorti d'ailleurs en 2019, juste avant Hunt Down, mais qui est très très lié esthétiquement. On est exactement dans la même esthétique, c'est-à-dire que c'est une espèce d'univers un peu tiré des années 80. Tout est très néon aussi, très
c'était
violet.
C'était un peu, à l'époque, il y avait eu l'énorme buzz de Hotline Miami.
Exactement.
Et avec une BO, justement, synthwave super présente. Et, ouais. Et donc, ça a fait un peu des bébés, quoi, tout ça, j'ai l'impression.
Bah, le gameplay de Katana Zero est à respirer de celui de Hotline Miami. Enfin, ouais. Tu as joué à Katana Zero, toi ?
Bah oui, oui, je vois ce que c'est, mais j'ai pas joué. Mais
ok.
J'ai vu un peu des.
Donc, à ce truc de réessayer tout le temps, en fait, chaque niveau, il faut habilement se faufiler du début à la fin du stage. Mmh. Et dès qu'on. En fait, on est une espèce de samouraï dans un monde années 80 futuriste.
Pour changer.
Pour changer. Et il faut arriver au bout du niveau en se faufilant et il y a plein d'adversaires à passer, etc. Et c'est un peu comme si tout était enregistré sur une caméra de sécurité.
Ah oui, oui, c'est ça.
Et donc, il faut, si jamais on meurt dans le stage, il faut tout recommencer. Ça rembobine, on recommence tout à zéro. Bon, bref, il faut y jouer pour capter le truc. Le scénario est cool. Le jeu, il n'est pas très, 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 très long. Et franchement, il vaut le coup parce que. J'aime bien ce genre de truc très complet où la musique, l'esthétique, le scénario, tout est un petit peu cliché sur les bords, mais par contre c'est super parce que l'immersion elle est là en fait. Et
puis c'est facile aussi un peu de tourner en dérision ce genre de code parce qu'ils ont été tellement utilisés, réutilisés dans les films, dans le machin, que du coup les développeurs de jeux se font un peu plaisir.
Ouais, et puis c'est un peu des jeux qui sont actuels plus ou moins, donc ils sont en plus beaux, ils sont maniables, jouables et fun en fait. Il n'y a pas tous les défauts des vieux jeux en plus, donc c'est vraiment cool. Il est un peu plus mélancolique que Undawn, qui est vraiment très dans le divertissement, très satisfaisant. Celui-ci est un peu plus mélancolique dans le scénario. En tout cas, ouais, c'est des très très bons jeux. Et ça, après, qu'est-ce qu'on a fait ? Ah oui, et après, toujours dans le jeu indé un peu rétro, on est passé sur The Messenger. Un jeu hyper cool sorti en 2018, décidément on passe d'année en année en arrière. Donc le morceau c'est Forgotten, Forlorn Temple, donc du musicien Rainbow Dragon Eyes, qui fait une espèce, j'ai vu sur son bandcamp, qui fait plutôt une espèce de black metal chiptunesque.
D'accord.
Et ouais, il fait. Alors j'ai pas tout écouté, s'il y a beaucoup de trucs. Et l'univers est très très death, black, metal. Et il y a même parfois, oui, des fois, il chante. Avec le chant un peu
guttural.
Mais par contre, derrière, c'est très souvent chiptunesque aussi. Et il fait des BO de jeu et la BO de The Messenger. Donc, c'est un jeu. On incarne un ninja.
Futuriste, dans les années 80.
Et bah, pas. Justement, non, on est plutôt dans un univers asiatique, héroïque fantasy asiatique, on va dire, avec des créatures, des fantômes, etc. Avec des temples et tout. Et alors, je peux pas trop spoiler, c'est très très dommage parce que j'ai très envie de spoiler pourquoi ce jeu est particulier. Parce qu'en fait, il commence vraiment comme un jeu comme Shovel Knight, un peu pixel art, en 2D, platformer. On va apprendre des moves, il y a un petit côté Metroidvania dans le sens où on va apprendre aussi des moves au fur et à mesure du jeu qui vont te permettre de réexplorer des zones que t'as déjà faites. Bon, voilà, tout ce truc qu'on connaît déjà. Mais il y a un twist incroyable au milieu du jeu.
No spoil.
Mais un twist qui fait que.
Ça donne envie d'y jouer, du coup.
Ouais. Alors, c'est pas révolutionnaire en soi, mais c'est assez fun pour ce que ça raconte dans un certain héritage du jeu vidéo. Okay. Voilà. Et la BO peut aussi motiver, franchement.
Mais
un
la BO, elle fait pas du tout black metal, pour le coup.
Non, mais il y a ce côté un peu guitare, un peu, on va dire.
Ouais, voilà. Ouais. Okay.
Non, la BO, elle fait pas du tout black metal chiptunesque, mais c'est plus ce que le mec fait à côté, quoi. Mais il a son style en tout cas. Une espèce de glissando de notes comme ça tout le temps.
Ah oui.
Donc BO super, jeu super, platformer et très exigeant en plus. Ça fait du bien de retrouver aussi cette difficulté des anciens jeux qui parfois manque un petit peu, je trouve, dans pas mal de jeux actuels. Et le jeu vraiment, il se corse pas mal au bout d'un moment, justement quand il y a ce twist au milieu là. Et tu rages un peu, tu recommences, et j'aime bien ressentir ça quand même, moi, dans des jeux, voilà, aussi. Donc, The Messenger, voilà, très cool. Et dans la même lignée, tac, ça a enchaîné avec le title song de Retro City Rampage, sorti en 2012, cette fois-ci. Il y a une version DX Deluxe qui est sortie plus tard. Composée par Vert, j'ai appris hors antenne que c'était Jake Kaufman.
Et oui.
J'ai pas fait mon travail de journaliste.
Est-ce qu'on a déjà.
Oui, t'avais passé du Shovel Knight.
Mais je crois que c'était avec Yann. Bon,
Ah oui, c'était Papta dans notre émission. Alors, Nation a dû passer du Kauf.
Bon bah Jack Kaufman, un grand nom. Ah si si, j'en ai passé. Je sais plus pour quel jeu, mais un grand nom du la composition de jeux indé. Donc ouais, Shovel Knight. Il y a eu DuckTales, le remake de DuckTales. Là, oui. Il avait fait la BO aussi du remake de Double Dragon, je crois. Enfin bref.
Oui, là, dans la chiptune un peu rock, ouais. Épique. C'est
assez complexe quoi, avec des rythmiques chelous, ouais. des changements
là.
De gamme.
Et d'ailleurs, sur ce morceau de Retro City Rampage, c'est marrant, ça me faisait penser au morceau que tu as passé de Double Dragon dans la dernière émission, avec ce côté solo de guitare, un peu baston, etc. Et d'ailleurs, petite anecdote, rest in peace à Yoshibisa Kishimoto, donc le créateur de Double Dragon,
ah, oui,
qui est décédé, okay. Qui vient de décéder avant l'émission. Donc, Retro City Rampage, tu as joué?
Ouais, bah, un petit peu. C'est un petit comme peu. Un espèce de GTA-like.
C'est tout like. C'est dans le sens où c'est un jeu, il y a un easter egg toutes les 5 secondes. C'est assez hallucinant.
C'est vu du haut, non, c'est ça.
Bah, c'est principalement vu du haut comme le GTA 1 et 2 sur PC. Enfin, ouais. Qui était aussi sorti sur PlayStation et tout. Mais c'est principalement vu du haut comme un vieux GTA. Mais par contre, t'as des phases de platformer 2D aussi, t'as des phases de un peu à la Contra, un peu à la tout, et puis t'as des références absolument tout le temps à tous les jeux, à toute la pop culture des années 90.
Oui,
c'est assez
ce
marrant pour
de...
ça. Après,
menu,
le jeu est...
menu maxi best-of de toutes les refs possibles.
Absolument.
Pour les nerds.
Tu à un moment, tu rentres dans un tuyau comme Mario, tu croises une tortue ninja, et puis juste après, je sais plus ce qui se passe. Enfin, tu joues à Space Invaders dans une salle d'arcade. Enfin bon, c'est le jeu est pas incroyable ici, mais pareil, il se finit assez vite. Et c'est juste un petit plaisir de. Après, tu t'ennuies jamais parce que le gameplay il varie tout le temps en fait. Et voilà, c'est un truc très sympa. Et pour si on aime la musique chiptune bien rétro Game Boy, c'est parfait. Et après toute cette frénésie, on s'est un peu reposé avec un morceau du français Alexis Laugier tiré du jeu Tinykin sorti en 2022 sur toutes les plateformes. Donc c'était le monde des Foliana Heights et le morceau Mantis Tribe. C'est un jeu dont je t'avais peut-être déjà parlé, Tinykin. Jeu que j'ai vraiment adoré faire il n'y a pas si longtemps, parce que c'est un jeu d'un studio de Montpellier. Hein. Et on incarne un petit personnage humanoïde venu d'une autre planète, je crois, et qui a la taille d'un tout petit. D'un Lego, quoi.
C'est un peu en mode Pikmin, quoi. C'est
un peu en mode Pikmin. On est dans une maison et chaque niveau, ça va être une pièce différente de la maison. Il y a un hub central qui va être de mémoire le grenier, je sais plus. Et donc, chaque pièce a évidemment sa spécificité. Et donc, on est c'est trop marrant de se retrouver en tout petit dans une pièce géante. Bon, tout est évidemment très très grand.
Oui, ça marche toujours bien les changements d'échelle.
Absolument.
La Katamari d'Amassi,
tout comme dans Katamari aussi et tout. Et on a des petites missions à faire, retrouver à chaque fois dans chaque stage des objets pour construire son vaisseau pour pouvoir retourner après sur sa planète. Et on est aidé par une multitude de petits êtres comme dans Pikmin, qu'on peut faire des choses, des ponts, on peut les empiler pour escalader, etc. Et c'est juste hyper satisfaisant et plaisant de se balader dans une pièce géante et aller sur un tourne-disque, rentrer dans un ordinateur. Y a un niveau avec une cuisine, je crois, qui est trop cool. Tu rentres dans le frigo, etc. Et c'est hyper positif, très, très, très good vibes. La musique est vraiment cool du compositeur Alexis Laugier. Un petit feeling Rayman 90s. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui,
peut-être moins jazzy, mais
c'est ce que tu veux dire.
Ce côté un peu orchestré, mais très synthétique quand même. Et d'ailleurs, il y a une interview de lui qui est très cool sur le média Origami sur YouTube. Que si vous êtes intéressé à la musique de jeux vidéo, c'est très très intéressant de voir le parcours de quelqu'un qui compose dans la musique de jeux vidéo, mais qui n'était pas forcément. Comment dire, on s'y retrouve toujours un peu par hasard là-dedans, j'ai l'impression. Et c'est très cool à suivre sur ce très bon, d'ailleurs, très belle émission d'Origami.
Ok, stylé.
Sur YouTube. Et
j'ai
parlé un peu de tous les morceaux.
Bah ouais.
Je crois bien. Hein.
Là, je pense que t'as bien parlé des morceaux et on va s'écouter un morceau de Matière Dense.
Oui, donc Matière Dense, rappelons-le.
Bah oui, qui est sorti en cassette sur le label musique.exe.
Notre label à nous.
Notre label incroyable. Et la cassette incroyable qui est vraiment magnifique, franchement. Allez voir sur l'Instagram de musique.exe, enfin, il y aura des visuels, des machins, enfin vraiment, l'objet est super beau. Et Matière Dense a composé une sorte de BO d'un jeu, BO fictif, d'un jeu fictif, enfin, qui suit le personnage Bilbo le Dauphin. Et donc, il a composé toutes ces musiques. Il y a énormément de pistes. Et ça part dans tous les sens. Et c'est trop beau.
Oui, on est vraiment sur une BO fictive avec des. T'as même les pistes un peu de son FX, t'as le son d'intro.
Bien sûr, ouais, ouais.
Il a fait un peu tout le truc.
Le chargement.
Ouais. Ouais. C'est très généreux et c'est aussi sur Bandcamp, évidemment.
Et je pense qu'on va se quitter sur le morceau Level Up Magic de Matière Danse, l'aventure de Bilbo le Dauphin. Et on se revoit dans 2 semaines.
À très bientôt.
Salut. Salut.
Oh.